RFI 8h à Paris, 7h à Conakry et en temps universel.
RFI Matin.
Et 10h à Mamoudzou. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de votre journal, cette question, est-ce suffisant ?
Nous l'avons posée aux Mahorais au lendemain de la visite et des multiples annonces de François Bayrou, le Premier ministre en visite à Mayotte hier, deux semaines après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts. Mayotte, la dissolution, la censure, Emmanuel Macron marche sur des œufs. Le président français va présenter ses vœux aux Français ce soir. Que faut-il en attendre ? Élément de réponse dans ce journal. Au sommaire, également des djihadistes étrangers promus officiers, annonce hier du nouvel homme fort de la Syrie, trois semaines après la chute de Bachar el-Assad, à des promotions qui interrogent au sein de la population. Et puis votre dossier ce matin sur RFI, c'est le bilan de l'année qui vient de passer sur le front de la lutte contre le changement climatique, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut attendre aussi de l'année 2025.
François Bayrou, le Premier ministre français, achève aujourd'hui son déplacement consacré au cyclone Chido.
Il a passé la nuit à Saint-Denis de la Réunion où il a rencontré les élus locaux ce matin au lendemain d'une journée marathon à Mayotte, deux semaines après le passage du cyclone qui a fait au moins 39 morts et 5600 blessés. François Bayrou a égrené des dizaines de mesures hier et détaillé Mayotte debout, un plan de reconstruction en deux ans, mais pas de quoi convaincre les Mahorais, plutôt déçus. Le reportage de la correspondante de RFI, Lola Fourmi.
Parmi les mesures les plus importantes, l'amélioration de la production d'eau d'ici la fin de la semaine, le retour de l'électricité pour tous dans un mois, mais aussi une aide financière pour accompagner la reconstruction. Le Premier ministre français, François Bayrou.
Les maisons qui ont été détruites pourront être réparées grâce à des prêts exceptionnels, puisque ces prêts seront sur 30 ans et les 5 premières années seront gratuites. Il n'y aura pas de remboursement.
Des annonces insuffisantes et trop loin du terrain pour Nassif.
Aucun projet structurant n'est envoyé. On nous dit loi programme. On le sait déjà. On en a fait combien de loi programme ? Ben, il n'y en a jamais rien. Honnêtement, je suis justement Henri qui en a marre. À un moment donné, il faut du factuel.
Le reproche principal de la population, c'est qu'il n'y ait pas eu de rencontre avec les habitants. Sylviana Mavi est secrétaire générale du collectif de citoyens Mayotte 2018, collectif mobilisé régulièrement dans les crises depuis cette date.
Il n'est pas venu pour nous, il est venu faire son voyage, ses visites et montrer que au monde entier, qu'il est là, que le héros est venu. Et donc, on doit l'accueillir bras ouverts. Non, on ne mendie pas notre francité, parce qu'on paye les impôts comme tout Français.
Ici, à Mayotte, Chido a dévasté des vies, défiguré des paysages, mais aussi, semble-t-il, détruit une partie de la confiance des habitants envers leur nation. Lola Fourmi, Mayotte, RFI.
Et parallèlement aux mesures annoncées par François Bayrou, une loi d'urgence sera présentée vendredi en Conseil des ministres. Un projet de loi programme de refondation préparé et conçu avec les élus mahorais sera quant à lui mis au point d'ici trois mois, fait savoir le Premier ministre.
Mayotte à la une de la presse internationale ce mardi. On en parle juste après ce journal. La Nation, il en sera question ce soir.
Puisqu'en ce 31 décembre, Emmanuel Macron va présenter ses vœux aux Français dans l'espoir de tourner la page d'une année difficile. On le disait, mais aussi la dissolution, la censure. Le président va devoir trouver les mots justes et redonner un élan à son quinquennat en perte de vitesse. Les explications de la chef du service politique de RFI, Valérie Gasse.
En regardant dans le rétroviseur, Emmanuel Macron aura certainement la tentation de s'attarder sur les deux moments qui ont fédéré les Français, les Jeux Olympiques et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Deux parenthèses dans une année politique qui a ressemblé à un cauchemar pour le président de la République. Élections européennes perdues par son camp et surtout remportées par le RN, dissolution qui a viré au fiasco avec une censure à la clé et la succession de quatre premiers ministres à Matignon. Emmanuel Macron en ressort essoré politiquement et sans certitude que la situation s'améliore dans les prochains mois. Des difficultés sur lesquelles le président de la République veut, selon son entourage, revenir le plus lucidement possible, avec un objectif assez habituel dans cet exercice convenu des vœux, fixer quelques grands défis et perspectives pour 2025 dans sa nouvelle posture de président qui préside mais n'a plus les moyens de gouverner. Un parlementaire renaissance veut avoir confiance en la capacité d'Emmanuel Macron à prendre de la hauteur, fixer les enjeux et montrer les dangers. avec un passage obligé, parler du drame de Mayotte et de sa reconstruction.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
Les vœux d'Emmanuel Macron que vous pourrez suivre ce soir sur RFI à 19h temps universel, 20h à Paris. Émission spéciale ensuite jusqu'à 20h30.
En Corée du Sud, c'est une première depuis la fin de la dictature militaire en 1987. Un tribunal sud-coréen a émis cette nuit un mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol, le président déchu par le Parlement après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale au début du mois. Réponse après ses 3 refus de répondre aux questions des enquêteurs qui annoncent le lancement ce matin d'une perquisition au siège du contre-espionnage militaire. Son avocat dénonce une procédure illégale et invalide.
RFI 10h05 à Damas en Syrie. 3 semaines après la chute de Bachar al-Assad, l'annonce interpelle et pourrait inquiéter la communauté internationale.
Le nouveau chef de la Syrie, Mohamed al-Joulani, qui a affirmé il y a plusieurs jours que les groupes armés seraient dissous et intégrés au futur ministère de la Défense, a promu hier des dizaines d'officiers, dont des djihadistes étrangers. Alors qu'en pensent les Syriens? L'envoyé spécial de RFI à Damas, Mohamed Erami, leur a posé la question.
L'élévation d'officiers égyptiens, albanais, jordaniens ou tadjiks à des postes clés du ministère de la Défense syrien a divisé de nombreux habitants de Damas. Abla Nouri, rencontré dans le quartier de l'Hamidiyeh, estime que ces décisions sont incohérentes et qu'il est impératif de d'abord créer une armée unifiée pour réorganiser l'armée syrienne.
Je pense que mon refus de cette décision est logique et suit une norme observée dans n'importe quel pays du monde. Il est inacceptable qu'une personne inconnue ou non syrienne soit placée à la tête d'une des institutions les plus importantes chargées de la sécurité du citoyen et du pays.
Une autre surprise dans cette décision réside dans le fait que certains des promus n'étaient même pas des officiers militaires au départ. L'expert militaire et stratégique syrien Hamoudeh Hussein a expliqué que ces promotions peuvent être fondées sur leur rôle dans les victoires obtenues lors des batailles contre le régime de Bachar al-Assad.
Cette décision aujourd'hui constitue une reconnaissance de la part de la Direction générale des compétences et des sacrifices de ces officiers qui ont été promus. Il est donc logique de leur attribuer ce grade militaire.
D'après le communiqué de l'armée syrienne, 50 officiers ont été promus, dont 2 ont atteint le rang de général, 5 celui de colonel et les autres ont été élevés au rang de lieutenant-colonel. Mohamed Erami, Damas, RFI.
La Syrie où les 50 tonnes d'aide humanitaire financées par l'Union européenne qui devaient entrer depuis la Turquie aujourd'hui ne franchiront finalement pas la frontière avant la semaine prochaine en raison de problèmes aux douanes. C'est ce qu'a annoncé hier un responsable des Nations Unies.
Mais toujours au Proche-Orient, le système sanitaire est anéanti et les hôpitaux complètement inopérants dans le nord de Gaza.
Un constat alarmant dressé hier par le Comité international de la Croix-Rouge. Notez par ailleurs qu'après un mois d'une très fragile trêve entre Israël et le Hezbollah, les ministres français des armées et des affaires étrangères doivent rencontrer tout à l'heure les casques bleus français de la FINUL. Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, arrivés hier au Liban, se sont entretenus avec le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, en charge de piloter le déploiement des militaires dans le sud du pays, mais aussi cité comme candidat possible à la présidentielle.
Nous sommes le 31 décembre et il est 7h08 à Conakry, en Guinée. Initialement, c'était ce soir que la page de la transition militaire aurait dû se fermer et que devait s'opérer le retour à l'ordre constitutionnel.
C'était la promesse du général Mamadi Doumbouya, mais finalement, le gouvernement confirme que la date butoir ne sera pas tenue sans en annoncer une nouvelle. L'opposant Aliou Ba, qui lui-même dénonçait les lenteurs de cette transition, vient de passer sa première nuit en prison. Il a été placé hier sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile pour offense au chef d'État, accusation qu'il rejette en bloc. Wely Diallo.
Régulièrement dans les médias et sur ses réseaux sociaux, Aliou Ba critique les autorités guinéennes. Il pointe du doigt leur responsabilité dans le drame de Nzérékoré et la lenteur du processus de transition. Une prise de position médiatique qui serait à l'origine du procès, selon son avocat, Almami Samori Traoré.
En réalité, c'est un procès qui est purement politique. Oui. L'objectif, en réalité, c'est de le faire taire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le seul acteur politique qui ose prendre la parole et dire exactement ce que pensent tous les citoyens épris de paix et de justice et qui sont éventuellement à la quête de la liberté pour lesquels effectivement il est en train de se battre.
Aliou Ba avait été arrêté alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Sierra Leone. Son parti a dénoncé des conditions de détention pénibles et appelé au respect de ses droits. Dans un communiqué, il dénonce un abus flagrant de pouvoir et une nouvelle décision visant à réduire au silence les voix dissidentes.
Si on doit interdire aux acteurs politiques de critiquer l'action gouvernementale et de critiquer la gestion de la transition pour laquelle des engagements ont été pris. Alouba n'a fait que rappeler aux autorités qu'elles ont pris des engagements et qu'elles sont tenues de les respecter.
Alouba refera face à la justice très prochainement. Jugé en flagrant délit, son avocat espère repasser devant les tribunaux dès aujourd'hui.
Wally Diallo.
Et en ce 31 décembre, cette question à présent de Bakou à Belém, quel bilan tiré de 2024 sur le front de la lutte contre le changement climatique?
On va tenter d'y répondre ce matin alors que le monde a subi cette année des événements climatiques extrêmes, des COP décevantes et que la diplomatie ne semble pas réellement mesurer l'ampleur du défi. Bonjour Lucille Gimbert.
Bonjour.
S'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, vous nous dites qu'il y a des raisons de garder espoir.
Oui, 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée d'après l'Observatoire européen Copernicus. Et partout dans le monde, on en a vécu les impacts dévastateurs. Des inondations dans le Sahel, une sécheresse historique en Afrique de l'Est et en Amazonie, des cyclones plus intenses car ils se sont chargés sur des océans plus chauds. Le seuil de plus 1,5 degré a été dépassé de manière temporaire pendant plusieurs mois en 2024. Pour autant, l'accord de Paris prend en compte le long terme. Cette limite ne sera donc considérée comme franchie que si elle est dépassée pendant 20 ans. Du côté des émissions carbone, responsables de ce changement climatique et causé par notre usage du pétrole, du gaz et du charbon, eh bien elles ont continué d'augmenter en 2024, plus 0,8% d'après les projections du Global Carbon Project.
Les pays vont donc devoir faire plus d'efforts d'ici à la prochaine COP. Ce sera au Brésil.
Oui, l'ONU attend leur nouvelle feuille de route d'ici février. Joe Biden, par exemple, vient de le faire pour les États-Unis. Mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait tout mettre en veilleuse. Ces plans climat devront tous être compilés à la prochaine COP. Ce sera à Belém, au Brésil. On verra alors si l'ambition collective est suffisante. Le tableau peut sembler noir. En réalité, il ne l'est pas totalement.
Donc on y croit encore ?
La réponse est oui, définitivement oui. Certes, l'action des pays est en deçà de ce qu'il faudrait et les dernières COP ont été frustrantes. Les pays et entreprises des énergies fossiles continuent de ralentir les efforts communs, mais des États qui pèsent lourd dans le bilan carbone mondial, eux, agissent avec force. Les émissions européennes ont baissé en 2024 et surtout la Chine, c'est un tiers des émissions mondiales. La Chine pourrait atteindre son pic d'émissions en avance, cette année ou la suivante. Et puis pour ce qui est de l'action individuelle, les solutions, elles sont connues et décrites par les rapports scientifiques. Quand on est riche ou occidental, réduire son usage de l'avion, de la voiture, réduire sa consommation de viande. Partout dans le monde, des femmes et des hommes transforment leur mode de vie. Ils se sentent peut-être à la marge, mais c'est documenté. Cette marge est en train de grossir. Le biologiste français et chercheur à l'INRAE et à l'ENS, Olivier Amand, prend l'exemple des groupes d'oiseaux dans le ciel. Les volatiles ne changent pas de direction grâce au ventre mou du groupe. Non, ce sont les marges qui font bifurquer tout le monde.
Lucille Gimbert.
Canberra fêtera le passage en 2025 dans 6 heures. À Rabat, comme à Paris, ce sera dans 16 heures.
Et à Rio de Janeiro, au Brésil, ce sera dans 20 heures. Mais les festivités ont déjà commencé à Copacabana pour ce qui est considéré comme le plus grand nouvel an du pays. Touristes du Brésil et du monde entier ont répondu présent et comptent bien se prêter au jeu des traditions très importantes pour attirer la chance. Le reportage de notre correspondante Sarah Cozzolino.
Avec de la musique dans les kiosques et des caipirinhas dans les mains des passants, l'ambiance est déjà à la fête sur le mythique trottoir le long de la plage de Copacabana. Venus de Salvador, Stéphanie et Ana Clara seront en blanc des pieds à la tête comme le veut la tradition.
Et il faut que ce soit de nouveaux habits parce que quand on commence l'année, tout doit être neuf pour laisser derrière tout ce qui est mauvais. Et le blanc, c'est pour que l'année soit remplie de paix. Et puis à minuit, eh bien, on va sauter sur les 7 vagues.
Sauter par-dessus 7 vagues en faisant des vœux pour la nouvelle année, manger 7 raisins et tous les ans, on découvre de nouveaux rituels insolites.
Cette année, je vais coller un billet de 2 reais sous ma tongue pour attirer l'argent. Et à minuit, je vais prendre le billet et le dépenser avec la première chose que je trouve.
Des traditions qui attirent les touristes du monde entier. Cette Québécoise qui vit à Rio a tenu à ce que ses parents découvrent le nouvel an à la sauce carioca. Elle a déjà acheté les roses blanches qu'ils jetteront à la mer.
Il y a un esprit de fête, il y a un esprit de fraternité. Tout le monde s'embrasse, tout le monde rit. On parle à tous les gens qui sont autour de nous, même si on ne connaissait pas d'avance. Évidemment, il y a plein de gens qui sont dans l'eau, dans la mer. C'est magnifique, c'est à voir une fois dans sa vie.
2,5 millions de personnes sont attendues pour célébrer la nouvelle année depuis la plage de Copacabana en admirant les feux d'artifice tirés depuis la mer. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Il est 8h14 à Paris, 7h14 en temps universel. On vous retrouve, Andréane Mellard.
Merci, Alban Le Prince. Votre journal à retrouver comme tous les autres sur notre application RFI Pure Radio. 8h15 à Paris, mardi 31 décembre, dernier jour de 2024, l'occasion de faire le bilan sur notamment les personnalités qui ont marqué cette année. Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, en fait partie. On en parle dans 5 minutes avec Loubna Anaki. Avant ça, reportage dans le nord d'Israël, alors que les habitants craignent toujours de rentrer chez eux malgré une trêve fragile en vigueur entre Israël et le Hezbollah libanais. Mais d'abord, la revue de presse. Avec vous, Marion Kazanov. Mayotte à la une. Marion, les journaux français reviennent sur la visite hier du Premier ministre François Bayrou, un peu plus de 2 semaines après le passage du cyclone Chido.
La visite tardive du gouvernement n'apaise pas les inquiétudes, écrit La Croix, qui raconte les échanges tendus entre les habitants et les ministres dépêchés sur place. François Bayrou a annoncé une rentrée scolaire pour le 13 janvier. Je ne vois pas comment ça pourrait être possible, se lamente un enseignant. Le Premier ministre a visité le collège de Kaweni 2, où certains murs se sont envolés lors du cyclone. Il se retrouve notamment, le Premier ministre, devant une salle de physique-chimie béante sur l'extérieur, laissant entrevoir, décrit La Croix, un arbre tombé au sol et les bidonvilles à flanc de colline. Libération détaille Mayotte debout, le plan du Premier ministre pour reconstruire l'île en 2 ans. Ambitieux, commente le journal qui se demande si cet objectif est réaliste.
Elon Musk est cité de nombreuses fois dans la presse ce matin et il ne se fait pas que des amis.
La presse allemande commente sa récente tribune qui, dans un journal allemand, Elon Musk a apporté son soutien à l'AfD, l'extrême droite allemande, l'agent électoral, titre le Süddeutsche Zeitung qui rapporte l'indignation d'une grande partie de la classe politique dans le pays à quelques semaines des législatives anticipées et se demande si c'était une bonne idée de publier ce texte. Die Welt, qui l'a publié, se remet en question justement. Une journaliste raconte les débats au sein de sa rédaction, le titre de son édito « Pourquoi je n'aurais pas publié cette contribution ?» Une opinion pointue n'est pas encore un danger pour la démocratie, lui répond un collègue dans un autre édito. Au Royaume-Uni, c'est le Premier ministre qui a du mal avec le milliardaire américain. Keir Starmer en froid avec Musk, titre The Times. Ce dernier a affirmé que très peu d'entreprises veulent aujourd'hui investir au Royaume-Uni.
Le New York Times explique quant à lui comment le patron de Tesla s'est imposé dans le cercle rapproché du président américain élu.
Il va presque jusqu'à camper à sa porte. Le journal raconte que depuis le jour de l'élection, Elon Musk a passé la majeure partie de son temps dans un chalet à Mar-a-Lago à 2 000 $ la nuit, disponible à la location sur la propriété de Donald Trump. Il ne le quitte pas d'une semaine et cela agace. Certains conseillers de Trump se sont plaints en privé de l'influence de Musk sur la transition, rapporte le New York Times, et du fait qu'il est inséparable du président élu.
Elon Musk, personnalité qui a marqué 2024, on y revient dans un instant avec Loubna Anaki. À la une également, Marion, 5 ans après l'apparition du Covid-19, le monde retourne dans la ville de Wuhan en Chine.
Là où tout a commencé, le sujet reste hautement sensible, constate le journal français. Un jeune homme jette un œil autour de lui, puis baisse la voix pour prononcer un nom, celui du docteur Li Wenliang, interpellé pour avoir alerté ses collègues sur la dangerosité du virus. Il est mort quelques semaines plus tard du Covid, justement. D'autres habitants se souviennent, les hôpitaux n'avaient plus de lits, alors les gens mouraient chez eux. Toutes ces rues, absolument vides, c'était étrange, comme un mauvais rêve. Passé ce mauvais rêve, aujourd'hui, il reste une aigreur, commente un jeune homme. Une aigreur en raison de la réaction des autorités jugée trop lente pour endiguer la propagation du virus. L'OMS vient d'ailleurs de redemander des informations à la Chine sur l'origine du Covid.
Enfin, en ce dernier jour de l'année, Marion, les journaux cherchent du positif en se remémorant 2024.
Et il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles. La preuve, le Washington Post liste 24 bonnes choses qui sont arrivées cette année. Le régime de Bachar al-Assad est tombé, se réjouit le journal américain qui continue d'égrener. Notre-Dame a été réparée, une éclipse solaire totale nous a permis de nous arrêter un instant. Le temps, en Suisse, décide aussi de voir le verre à moitié plein et nous fait son inventaire. En Amazonie, le plus faible taux de déforestation en 9 ans, les Jeux Olympiques ont survécu à tout. On nous promettait le pire sur ces JO et on a vu le meilleur, s'exclame le journal. Voilà. Je ne sais pas pour vous, Andréane, je pense qu'en effet, les JO resteront l'un des meilleurs souvenirs de l'année.
Oui, on essaye de se raccrocher à ça. Merci Marion Kazanov. Et en cette fin d'année 2024, sachez qu'une rétrospective de cette année est disponible sur notre site internet rfi.fr. 2024, la guerre des révolutions et beaucoup d'élections, c'est le nom de cette rétrospective. C'est dur à dire. Une guerre et une trêve fragile au Liban, trêve en vigueur depuis près d'un mois. Les deux camps, Israël et le Hezbollah libanais, s'accusent mutuellement depuis de violations répétées. Une instabilité qui entraîne beaucoup de méfiance chez les habitants du nord d'Israël. Ils sont 60 000 à avoir quitté leur maison toute proche de la frontière avec le Liban. Et ils ne semblent à ce stade pas vraiment prêts à revenir chez eux. C'est toujours donc la méfiance qui l'emporte avec la crainte d'une reprise des combats. Reportage en Galilée, Pierre-Olivier.
Dans l'extrême nord d'Israël, le moshav de Shar Yalchouv a des allures de village fantôme. Une petite communauté où vivaient 600 personnes avant la guerre, mais plus d'une sur deux a fui les combats. Au milieu des maisons, aux volets fermés, Guidi Harari, lui, n'est jamais parti. Cet ancien colonel nous accueille chez lui autour d'un café.
Donc là, Guidi a sorti des cartes qui sont dans un album et qu'il nous montre.
Là, c'est Kiryat Shmona, la grande ville du coin. Et nous sommes ici à Shar Yalchouv. Et à 2 km, c'est la frontière avec le Liban. On est vraiment à la périphérie d'Israël.
Ce moshav est toujours officiellement une zone évacuée. Alors, Guidi Harari prépare le futur retour des habitants.
Par exemple, je coordonne une équipe de bénévoles qui prépare les maisons des personnes âgées qui sont parties. Ça veut dire s'occuper du jardin, repeindre, ranger, nettoyer, tout ce qui n'a pas été fait depuis plus d'un an.
Qu'est-ce qui manque pour que les 300 habitants du Moshav qui sont partis reviennent ?
Alors d'abord, il faudrait que les écoles rouvrent. Et puis, il n'y a aucune activité économique, ce n'est pas très attirant. Les magasins sont fermés, les usines aussi. Les gens ont besoin de pouvoir reprendre leur travail pour rentrer, et ce n'est pas le cas.
Mais d'après Guidi Harari, certains habitants ne reviendront même jamais.
La plupart des familles évacuées n'avaient jamais vécu ailleurs qu'ici. Dans les grandes villes, elles ont découvert qu'il y a de bonnes écoles, des bons médecins, que les salaires sont meilleurs. 15% ne reviendront pas.
Justement, parmi ceux qui hésitent à revenir dans le nord d'Israël, il y a Ren Blum, une mère de famille. Alors nous allons contacter Ren par WhatsApp. Elle est logée avec ses enfants par le gouvernement dans un hôtel juste à côté de Tel Aviv.
Ce cessez-le-feu ne tiendra pas et je ne veux pas mettre mes enfants en danger. Donc pour l'instant, rentrer n'est pas à l'ordre du jour. Et même si je suis très patriote, j'ai décidé de rester là pour offrir un meilleur avenir à mes enfants.
Et puis il y a ceux, une minorité, qui sont revenus, comme Raed Ahmed, qui habite à 4 km de la frontière libanaise, dans le village druze d'Ourfesh.
Maintenant, c'est devenu calme. Calme, mais pas sûr. Il suffit d'une étincelle pour que ça reparte comme après le 7 octobre 2023.
Pour l'instant, le gouvernement israélien continue de subventionner les personnes déplacées en leur payant l'hôtel. Mais cela s'arrêtera un jour. Nombreux sont ceux qui évoquent la date du 1er février prochain. Pierre-Olivier, Shar Yalchouv et Ourfesh, RFI.
RFI à Kiryat Shmona, il est 9h23. Nous sommes le 31 décembre 2024, dernier jour de l'année, et on en parlait dans la revue de presse internationale. Aux États-Unis, le milliardaire Elon Musk s'est imposé cette année comme un acteur clé de la vie politique, allié de Donald Trump, président élu américain, qu'il a choisi pour faire partie de son équipe. Bonjour Loubna Anaki.
Bonjour.
Correspondante de RFI à New York. Alors Loubna, le patron de Tesla et de SpaceX est plus que jamais impliqué dans la politique américaine.
Absolument, au point qu'il a loué un chalet à la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, une façon pour le patron de Tesla d'avoir facilement accès au président élu. Il est de tous les dîners, de toutes les réunions. On sait qu'il a participé et qu'il participe encore au processus de nomination des membres du cabinet présidentiel. Et cela fait déjà plusieurs mois qu'Elon Musk s'est imposé ainsi dans le cercle rapproché de Donald Trump. D'abord en devenant son plus gros donateur. Il a déboursé plus de 270 millions de dollars et il a même donné de son temps puisqu'il est apparu plusieurs fois aux côtés de Donald Trump lors de meetings de campagne. Il a même parcouru la Pennsylvanie, l'un des États clés, en bus pour mobiliser les électeurs. On peut dire qu'il a joué un rôle crucial dans la victoire de Donald Trump, qui lui a confié une mission dans son équipe, celle de couper les dépenses inutiles du gouvernement.
Et après avoir secoué la politique américaine, Elon Musk pourrait bien faire la même chose ailleurs.
Oui, le multimilliardaire n'hésite pas à donner son avis sur d'autres gouvernements, d'autres États. Ces derniers mois, il s'est invité par exemple dans le débat politique en Grande-Bretagne, disant être prêt à faire un don de 100 millions de dollars au parti populiste de Nigel Farage. Il a aussi apporté son soutien au parti d'extrême droite allemand AfD et critiqué l'actuel chancelier Olaf Scholz. Hier, le gouvernement allemand a accusé Elon Musk d'essayer d'influencer les élections prévues en février.
Alors, Loubna, que ce soit sur le plan international ou local, on peut le dire, cette influence ne plaît pas forcément dans le camp Trump.
Oui, on l'a vu il y a 2 semaines quand Elon Musk a fait capoter l'accord autour du budget, précipitant le Congrès dans le chaos et à la limite du shutdown. On l'a vu aussi ces derniers jours, il s'est mis à dos les Trumpistes les plus conservateurs en défendant le programme de visa destiné aux travailleurs qualifiés, un programme que Donald Trump avait largement limité lors de son premier mandat, mais semble désormais défendre cette fois. Beaucoup voilà l'effet d'Elon Musk sur le président et certains alliés proches n'ont pas hésité à faire savoir qu'ils ne voyaient pas du tout cette situation d'un bon œil. 200 millions d'abonnés sur X et 450 milliards de dollars à la banque. Jamais un homme aussi puissant qu'Elon Musk n'avait eu autant d'influence auprès d'un président américain et dans le monde.
Loubna Naki, notre correspondante à New York. Question d'environnement sur RFI et ce matin on s'intéresse à la réutilisation des eaux usées, une technique essentielle dans un contexte mondial où l'eau manque et manquera de plus en plus à l'avenir. Une fois traitées, les eaux usées provenant des stations d'épuration peuvent être destinées à différents usages, l'irrigation, la lutte contre les incendies ou encore le lavage des voiries. C'est utilisé dans des pays comme Israël, Chypre ou la Jordanie. Ce n'est pas le cas en France et cela pour différentes raisons. Peur et dégoût des consommateurs, prix plus élevé de l'eau en raison des traitements imposés par les normes sanitaires. Depuis 8 ans, des chercheurs de l'INRA testent cette réutilisation des eaux usées, notamment dans le sud de la France. Igor Strauss s'est rendu sur place.
Murviel, les Montpellier, ses collines, ses oliviers et sa station d'épuration où est testée la réutilisation des eaux usées. Jean-Claude Mayol expérimente ce système.
C'est un nouveau système de traitement par les plantes. L'eau est amenée dans des bassins où les racines, c'est une propriété de ces roseaux, laisse facilement passer l'oxygène qui permet effectivement de dégrader la matière organique et d'épurer l'eau.
D'abord testées sur des salades cultivées dans des bacs, les eaux usées sont désormais utilisées en goutte à goutte sur la parcelle de Jean-Claude.
Il y a des pompes qui permettent d'envoyer l'eau sur ma parcelle.
Et les résultats sont excellents.
Bien sûr, on était préoccupés par l'impact de l'utilisation des eaux usées sur la qualité des produits. Donc on a pris des échantillons de grappes de raisin. Eh bien, on n'a pas trouvé de différence significative, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun risque de contamination.
Décontamination principalement due à la matière fécale, mais Nassim Aït Mouheb, chercheur à l'INRAE, a voulu aller plus loin.
On s'est intéressé également aux polluants médicamenteux. Bon, on sait que dans les eaux usées, on peut avoir des pharmaceutiques dedans, mais est-ce que du coup, en mangeant ma salade, bon, j'aurai un peu plus ou moins mal à la tête en ayant consommé ma salade? Donc on a beaucoup travaillé dessus et ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait potentiellement trouver des traces d'antibiotiques, mais à des concentrations très très faibles.
100 km plus à l'ouest, au bord de la Méditerranée, la commune de Gruissant et ses vignes à perte de vue. Jean-Michel Haribaud, verbeau et accent chantant, est viticulteur.
On n'a pas de cours d'eau dans notre massif. Donc le constat a été vite fait, il faut se servir de la seule ressource qu'on ait, les eaux de station d'épuration. Voilà, c'est impératif de trouver des solutions. Et ça, c'est une solution.
Aujourd'hui, 81 hectares de vignes bénéficient de ces eaux, mais...
Bon, il y a un coût certain, mais voilà...
Pourquoi il y a un coût ?
Le retraitement des eaux, c'est pas donné, ça demande des infrastructures spécialisées, c'est une technologie quand même pointue.
Un coût de production, de traitement et de distribution qui se répercute sur le tarif du mètre cube d'eau, 4 fois plus cher que le prix d'une eau conventionnelle. Alors la reuse, la réutilisation des eaux usées, est-elle une solution d'avenir ? Nassim Aït Mouheb, chercheur à l'INRAE.
Je dirais que la première solution, c'est déjà la sobriété. C'est déjà savoir qu'est-ce qu'on fait de l'eau, notamment pour l'agriculture et pour quelle culture. Mais il faut bien prendre en compte le fait que cette eau, elle fait déjà partie, on va dire, du grand cycle de l'eau. Et donc, si en imaginant qu'il y ait multiplication de projets de réutilisation des eaux usées, ben, cette eau ne revient plus dans le milieu. Donc il y a vraiment maintenant un équilibre à trouver entre des nouveaux usages qui seraient les usages de reuse agricole officiels avec des usages plutôt reuse environnemental qui servent par exemple à maintenir les cours d'eau.
Si la réutilisation des eaux usées est indéniablement une solution pour des territoires frappés par la sécheresse, son coût et son impact environnemental doivent néanmoins être pris en compte avant d'en étendre l'usage.
Un reportage d'Igor Strauss.
RFI, la sélection du mois.
Criollo. Se acaso você chegasse no meu château e encontrasse aquela mulher que você gostou.
Théophile Chantre.
Papier musique insistante, résistante. Papier musique.
Papier musique. RFI musique.